Laudetur Jesus Christus.
Le président ukrainien et les principaux leaders européens attendus à la Maison-Blanche ce lundi, ils y seront reçus par Donald Trump 3 jours après sa rencontre avec Vladimir Poutine. La recherche d'une paix juste et durable pour l'Ukraine est au cœur des enjeux cruciaux pour l'Europe. Nous irons à Bruxelles au début de ce journal. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour trouver un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Hier, des centaines de milliers d'Israéliens ont demandé la fin de la guerre. Dans le même temps, les opérations de destruction de la ville de Gaza se poursuivent à un rythme soutenu. Dans ce journal également, nous irons au Pakistan, durement frappé ces derniers jours par de nouvelles inondations meurtrières. Le pape Léon XIV a demandé à prier pour les victimes après l'Angélus. Et puis au Mexique, direction le Mexique également, où la coopération avec les États-Unis se poursuit concernant l'extradition de narcotrafiquants. C'est ce que nous rappellera notre correspondant à Mexico.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Une visite très attendue ce lundi à Washington, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Il sera reçu ce soir par Donald Trump pour évoquer un plan de paix en Ukraine. Un plan avec le soutien des pays européens. Plusieurs leaders du vieux continent, comme ceux de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne ou de l'Italie, seront également du voyage. Hier, la coalition des volontaires a adopté une position commune en soutien à Kiev. Les précisions à Bruxelles de Laxmi Lota.
Le groupe des alliés de Kiev a réitéré son soutien à une Ukraine libre de choisir son destin, de conserver son intégrité territoriale et de poursuivre son parcours d'adhésion à l'Union européenne, a déclaré Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a rappelé que les sanctions contre la Russie allaient se poursuivre. De nouvelles mesures seront présentées début septembre. La coalition tient aussi à ce que la sécurité de l'Ukraine soit garantie après la fin de la guerre via un mécanisme identique à l'article 5 de l'OTAN. Un pays membre attaqué est automatiquement défendu. Il en va de la sécurité de toute l'Europe, a affirmé le président français. Les Européens seront présents pour Volodymyr Zelensky, mais aussi pour défendre leurs intérêts. Réunis en visioconférence dimanche après-midi, la coalition des volontaires a affiché une position commune. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force et l'OTAN continuera à armer l'Ukraine. Laxmi Lota, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Et à quelques heures de cette rencontre, le président Zelensky appelle, lui, la Russie à mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée. J'espère que notre force conjointe avec l'Amérique, avec nos amis européens, contraindra la Russie à une véritable paix, a-t-il souligné sur les réseaux sociaux. Et parmi les voix diplomatiques qui se font entendre également sur ce dossier ukrainien, celle de la Chine, plutôt discrète jusqu'ici. Pékin a espéré ce matin un accord acceptable pour toutes les parties. Un autre théâtre de guerre est bien sûr au Proche-Orient, à Gaza ou en Cisjordanie. Hier, des centaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues du pays, à Tel Aviv en particulier, pour demander la fin des combats à Gaza et la libération des 22 otages toujours vivants. Des manifestations méprisées par le gouvernement israélien qui y voit un cadeau du Hamas. Gaza, où se poursuivent par ailleurs les opérations de l'armée israélienne pour prendre le contrôle du territoire sur fond de catastrophe humanitaire qui se poursuit. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferrand.
Depuis une semaine, Israël a largement intensifié ses bombardements sur la ville de Gaza, que le nouveau plan militaire adopté la semaine dernière prévoit de vider totalement de sa population avant une opération terrestre. Entre 800 000 et 1 million d'enfants et d'adultes sont censés se diriger vers la région sud, déjà en grande partie détruite et toujours cible également de bombardements. Des dizaines de milliers de civils sont actuellement piégés dans certains quartiers orientaux, notamment celui d'Al-Zeit, que l'armée israélienne a entrepris de raser. Des opérations de dynamitage de l'habitat y ont lieu depuis une semaine, avec plus de 300 bâtiments détruits dès les 3 premiers jours. Des efforts diplomatiques sont en cours pour parvenir à un accord sur un échange de prisonniers et un cessez-le-feu, notamment au Caire, où le premier ministre palestinien s'est rendu. Le Hamas doit également tenir dans la journée une réunion dans la capitale égyptienne sur la nouvelle proposition en cours. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et Israël qui mène une campagne de famine délibérée à Gaza, a dénoncé ce matin l'ONG Amnesty International. C'est dans ce contexte très lourd que la présidence de la Conférence des évêques de France poursuit son pèlerinage en Terre Sainte. Une visite entamée le 16 août et menée par le cardinal Aveline, le président de la conférence. Une visite qui s'achèvera mercredi. Hier, la délégation s'est rendue dans le dernier village chrétien de Palestine, à Taïbet, pour y célébrer la messe. Un village particulièrement éprouvé ces dernières semaines suite à des attaques de colons israéliens. Demain, le cardinal Aveline tiendra une conférence de presse aux côtés du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La balle est désormais dans le camp d'Israël pour appliquer le cessez-le-feu signé avec le Liban, déclaration ce lundi de l'émissaire américain Tom Barak depuis Beyrouth. Et celui-ci a rappelé que le gouvernement libanais avait fait le premier pas pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année. Une décision rejetée par le mouvement chiite qui exige au préalable que les opérations militaires israéliennes cessent contre le pays du Cèdre. Le pape a fait part hier de ses prières pour les victimes des graves inondations qui ont touché ces derniers jours plusieurs pays d'Asie comme l'Inde, le Népal ou le Pakistan. Après l'Angélus, Léon XIV a dit prier pour les victimes et leurs familles ainsi que pour tous ceux qui souffrent à cause de cette catastrophe. Les pluies de mousson qui ont déjà fait des centaines de victimes, en particulier au Pakistan, un pays déjà fortement touché ces dernières années par les inondations. Islamabad qui peine à s'adapter à des précipitations rendues toujours plus intenses par les changements climatiques. Correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
Voilà 10 ans que les pluies de la mousson deviennent toujours plus violentes chaque été au Pakistan. Le même cycle dévastateur se répète. Des précipitations soudaines et violentes font déborder les cours d'eau qui inondent les régions alentours et emportent tout sur leur passage. Plus de 300 personnes sont mortes ces derniers jours dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et au Cachemire. Depuis la fin juin, le bilan s'élève à plus de 600 victimes. Des centaines d'autres sont portées disparues. Une catastrophe similaire avait fait 1700 morts et détruit des millions d'habitations en 2022. Les autorités et l'ONU cherchaient alors des solutions pour adapter les nouvelles constructions et rendre les infrastructures plus résistantes à ces pluies diluviennes. Mais Islamabad n'a pas les moyens d'investir dans ce sens et la corruption endémique complique encore plus la donne. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
En Birmanie, la junte a annoncé ce lundi des élections législatives à partir du 28 décembre prochain. Le pays est pourtant toujours déchiré par la guerre civile. La commission électorale birmane évoque, je cite, une élection générale démocratique multipartite. Le scrutin est dénoncé pour sa part par les observateurs internationaux et boycotté par l'opposition. Il y aura un second tour à l'élection présidentielle en Bolivie, une première dans l'histoire du pays. Les résultats du premier tour organisé hier sont tombés et ont révélé une autre surprise. Ce sont deux candidats de droite qui s'affronteront pour le second tour au mois d'octobre. La gauche, depuis 20 ans au pouvoir, a été balayée. Partons à présent au Mexique, où la collaboration s'intensifie avec les États-Unis voisins concernant le trafic de drogue. Mardi dernier, 26 narcotrafiquants ont été expulsés par les autorités mexicaines vers le territoire américain. Transfert dans les prisons américaines qui était demandé par Washington. L'administration Trump, qui met la pression sur son voisin du Sud pour lutter contre les cartels, responsable notamment du trafic du fentanyl. Les précisions de notre correspondant à Mexico, Diego Calmar.
Ce n'est pas la première fois que le Mexique envoie des narcotrafiquants vers les États-Unis. En février 29, d'entre eux avaient déjà été extradés. Des 26 nouveaux prisonniers, 11 sont liés au cartel de Sinaloa, le groupe anciennement dirigé par Joaquim El Chapo Guzman, principal cartel à produire du fentanyl, cette drogue qui fait chaque année des dizaines de milliers de morts aux États-Unis. Le gouvernement américain s'est engagé de son côté à ne pas appliquer la peine de mort à leur encontre. Cette opération intervient dans une période où Donald Trump menace régulièrement les produits mexicains de droits de douane. Une façon de mettre la pression sur la présidente Claudia Sheinbaum à poursuivre sa politique anti-drogue. La semaine dernière, Trump a d'ailleurs ordonné au Pentagone de préparer des options pour recourir à la force militaire contre les cartels, ce qui a fait craindre au Mexique une violation de sa souveraineté. À Mexico, Diego Calmar. pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, un mot sur les incendies qui continuent de ravager le sud de l'Europe, en particulier l'Espagne et le Portugal. Des milliers de pompiers assistés par l'armée continuent toujours de se battre contre les flammes. Des renforts de plusieurs pays européens ont été déployés comme des canadaires. En Espagne, 343 000 hectares ont été brûlés depuis le début de l'année, vient de révéler l'observatoire européen Copernicus. Un nouveau triste record. 4 personnes ont perdu la vie en Espagne, 2 autres au Portugal. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à 8h30, toujours en direct de Rome, pour un nouveau point complet sur l'actualité du pape, de l'Église et du monde. N'oubliez pas d'ici là, vaticannews.va. Je vous souhaite une excellente après-midi.